Il y a un peu plus de deux ans, le 7 octobre 2023, le mouvement islamique Hamas lançait une attaque meurtrière contre l'État d'Israël, jusqu'ici considéré comme le refuge inviolable pour les Juifs du monde entier. 1221 habitants d'Israël, majoritairement des civils et essentiellement des Israéliens, étaient massacrés, 4834 étaient blessés et 251 étaient emmenés dans la bande de Gaza, d'où était partie l'attaque. Aussitôt, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en grande difficulté politique, lançait une riposte militaire destinée à, je cite, « éradiquer le Hamas ». Cette dernière a fait 68 865 morts et près de 171 000 blessés, selon les dernières données du ministère de la Santé de Gaza, considérées comme fiables par l'ONU. Selon le Centre d'imagerie satellite de l'ONU, UNOSAT, près de 81% des constructions de l'enclave palestinienne ont été détruites ou endommagées. Beaucoup de victimes étant sous les décombres, le bilan réel pourrait être malheureusement plus important, si bien que certains n'ont pas hésité à parler de génocide, un terme forgé par le juriste Raphaël Lemkin en 1944 pour qualifier la singularité et l'atrocité du crime commis par les nazis sur les Juifs d'Europe. Un cessez-le-feu fragile a été imposé le 10 octobre par les États-Unis de Donald Trump aux belligérants. Les 20 derniers otages israéliens vivants ont été libérés contre 1968 prisonniers palestiniens, dont près de 90% avaient été emprisonnés depuis 2 ans. Et depuis, le mouvement islamiste palestinien a restitué les dépouilles de 20 des 28 otages israéliens décédés, qu'il s'est engagé à remettre, et conformément aux termes de l'accord, Israël a remis 270 corps de Palestiniens décédés pendant la guerre, soit 15 pour chaque corps d'Israélien rendu. Désolé pour ce décombre macabre. Cette violence quasi irrépressible nous heurte et nous bouleverse. Les propos tenus par les acteurs et les commentateurs donnent lieu à des accusations brutales et de fortes tensions dans de nombreux pays occidentaux, dont le nôtre. L'émergence d'une voix médiane est difficile. Une parole chrétienne est-elle possible, légitime, audible dans l'espace public ? Pour en parler, nous avons la chance d'avoir ce soir 3 intervenants qui connaissent bien la situation sur place, alors que les journalistes y restent interdits de séjour. Virginie Amieux, vous êtes présidente de CCFD Terre Solidaire, dont 4 organisations partenaires interviennent directement à Gaza, 4 organisations palestiniennes et une organisation israélienne intervient autour de Gaza. Muriel de Berthier, vous êtes membre du Service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France et diplômé en théologie et philosophie de cette auguste maison. Monseigneur Hugues de Boilemont, vous êtes ancien secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, précité, et vous avez été nommé le 19 mars dernier directeur général de l'Œuvre d'Orient et vicaire général des catholiques orientaux de France. Vous avez pris vos fonctions le 1er septembre, succédant à Mgr Pascal Gollnisch, qui occupait ses fonctions depuis 15 ans. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Le Vatican a annoncé cet après-midi que le pape Léon XIV recevra pour la première fois le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, jeudi prochain, le 6 novembre. Virginie Amieux, on va commencer avec vous. Étant donné que vous avez des contacts assez étroits avec vos associations partenaires, quelle est la situation à Gaza maintenant?
Bonsoir à tous. Merci. Merci pour l'invitation. On a effectivement à cœur, comme vous le disiez, de porter la parole des associations avec lesquelles on travaille sur place. Alors, associations partenaires pour nous, c'est-à-dire que le CCFD Terre Solidaire n'a personne sur le terrain. C'est un peu la spécificité de l'organisation. C'est une organisation qui a été créée en 1960 à un double appel de la FAO et du pape par rapport à la question de la faim dans le monde. Et la spécificité dès le départ, ça a été de dire on n'enverra personne sur le terrain, mais on va accompagner des organisations qui, elles, font partie de la société civile, des sociétés civiles, et qui ont une légitimité que, nous semble-t-il, qui est supérieure à la nôtre, puisqu'ils ont aussi une fine connaissance du terrain. Voilà. Et ce qui nous permet, effectivement, alors donc nos principes d'action, c'est des actions à long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout situé sur l'urgence. Alors ça paraît étonnant, et je vais y venir quand on dit on intervient aujourd'hui à Gaza, ou en tout cas on soutient des organisations qui aujourd'hui interviennent à Gaza, mais on n'intervient pas dans l'urgence. On intervient vraiment sur, on pourrait dire, la résilience des sociétés civiles. C'est-à-dire essayer de voir avec les organisations comment créer les conditions pour que demain quelque chose puisse renaître. Voilà, c'est un peu notre action. Alors évidemment, on avait depuis longtemps, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de continuer à avoir à la fois des nouvelles de ce qui se passe à Gaza et à la fois de pouvoir continuer à soutenir les populations sur place. On avait depuis bien longtemps des organisations partenaires sur le terrain, essentiellement sur les questions des médias, voilà, parce qu'il nous semblait, il nous semble que la question du savoir, de documenter ce qui se passe là-bas est éminemment importante, et on l'a vu et on le voit depuis le début du conflit que ce sujet-là est éminemment important. Et puis aussi les questions évidemment des droits humains, de promotion des minorités, voilà. Donc c'est un peu les deux sujets sur lesquels on intervenait. Alors aujourd'hui, c'est quoi la situation? Donc on a effectivement plusieurs associations qui continuent d'intervenir à Gaza, mais aussi parce que c'est des gens de Gaza, voilà. Et donc alors ce qui est extrêmement difficile pour nous, ce qui est extrêmement difficile pour nos équipes, c'est qu'à vrai dire, depuis le 7 octobre 2023, on fait comme le décompte que vous avez eu à l'instant, on compte un peu les morts, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend des nouvelles de nos partenaires et voilà, on a souvent des mauvaises nouvelles, des organisations où il y a des personnes qui sont décédées, des personnes qui évidemment sont parties du pays aussi, qui sont sorties si elles ont pu. Voilà. Aujourd'hui, on a donc une association qui s'appelle Filastignat, qui est une association de femmes journalistes. L'idée, c'est qu'elles continuent à pouvoir documenter ce qui se passe à Gaza, sachant qu'à Gaza, comme vous le disiez, les journalistes, c'est extrêmement difficile pour les journalistes d'avoir de l'information. Et aussi pour se dire, demain, quand il s'agira de comprendre vraiment ce qui s'est passé, on aura de la documentation. Donc ce sont des femmes journalistes dont on organise avec donc l'association qui est basée à Ramallah par une femme qui est de Gaza mais qui ne peut plus y retourner. Voilà, il y a encore un certain nombre de personnes sur place. Et évidemment, hein, les journalistes ont été les premières cibles des frappes israéliennes. Donc voilà, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc il reste encore des journalistes pour lesquels, du coup, ça nous permet d'avoir des nouvelles. On a aussi plusieurs associations qui travaillent sur la santé mentale. Voilà, la santé mentale des Palestiniens à Gaza, puisqu'évidemment, face au raz-de-marée, y a évidemment des gros soucis de santé mentale auprès des enfants, santé mentale auprès des familles. Et puis, on a aussi, du coup, on a une association aussi qui travaille sur l'accueil dans les camps de réfugiés pour que les conditions de vie soient au mieux dans les camps de réfugiés. Alors, on a un phénomène, là, de tout dernièrement qui nous a saisie, qui est que les personnes sont reparties à l'annonce du cessez-le-feu, mais qu'en fait elles reviennent parce qu'en fait les conditions, comme vous disiez, hein, 80% voire 90% du territoire qui est détruit, ne leur permet pas de vivre en fait dans leur là où elles ont vécu. Donc elles reviennent en fait dans les camps. Donc on a effectivement une association qui prend soin de ces personnes. Et puis on a une association qui s'appelle Breaking the Silence, qui est une association d'anciens soldats israéliens qui ont fait le choix de témoigner. Alors au départ, c'était avant les événements du 7 octobre, c'était beaucoup sur la colonisation et notamment en Cisjordanie. Et depuis, c'est à Gaza, notamment des témoignages de soldats qui souhaitent témoigner de ce qu'ils ont vu à Gaza. Voilà, donc on a aussi ce point de vue-là. Voilà, alors l'enjeu pour nous, hein, avec tous ces partenaires, c'est à la fois les soutenir pour qu'existe encore une société civile dans ces territoires-là, et que demain, il y ait des gens qui puissent prendre la parole et qui puissent aussi reconstruire ce qui sera possible de reconstruire. J'ai été deux fois en Palestine, hein, l'année dernière. Voilà, j'y suis allée en décembre. Et puis on a eu des appels très forts, et ça par rapport au sujet là de ce soir, qui est effectivement, y a-t-il une parole chrétienne possible? On a eu des appels
l'intitulé
très
forts. L'intitulé vous choquez un peu. Enfin, vous
oui,
n'étiez pas nécessairement d'accord.
Je vais revenir sur l'intitulé effectivement, mais. Néanmoins, si on prend cet intitulé-là, même si je vais y revenir, nos partenaires nous ont vraiment interpellés en nous disant « on a besoin d'une parole de l'Église ». Et ça, c'est quelque chose avec lequel je suis revenue et sur lequel il y a un groupe à la Conférence des évêques de France qui se réunit régulièrement sur la question du Moyen-Orient avec les différentes organisations qui interviennent, notamment l'Œuvre d'Orient, mais aussi d'autres organisations. Donc j'ai partagé ça dans ce groupe, et on a décidé ensemble avec quatre évêques et deux membres de la conférence d'aller faire une mission en Palestine pour se rendre compte aussi, alors on n'a pas été à Gaza parce que Gaza est inaccessible, mais se rendre compte quand même de ce qui se passe sur ce territoire-là.
Ça, c'était en avril.
Donc ça, c'était en avril, voilà, en avril dernier. Alors effectivement, moi, le titre de la conférence, j'y viens, y a-t-il une parole chrétienne possible ? En fait, elle existe, cette parole. C'est-à-dire que elle existe, et elle existe depuis le début. Elle existe depuis le début depuis le 7 octobre. Voilà, elle est difficile. On en parlait tout à l'heure avec vous. Elle est difficile, elle est délicate, mais elle existe, et elle existe de manière très forte par les acteurs là-bas. Les églises, dès le 7 octobre, le 8 octobre. Le patriarche latin de Jérusalem a fait une déclaration en demandant d'arrêter tout de suite l'escalade de la violence. Voilà. Et donc cette parole, elle existe, elle a existé tout au long, depuis deux ans, elle a existé, et elle existe. Voilà, il y a un peu plus récemment, en avril dernier, il y a eu un appel pour la justice depuis Jérusalem. Il y a aussi les prêtres de Taïbé en juillet dernier qui ont fait des déclarations. Enfin, des déclarations, il y en a eu des multiples. Donc, oui, une parole est possible. Non, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Alors, en tant que chrétienne, je dirais que voilà, la foi, c'est vraiment une espérance obstinée. Moi, j'ai rencontré notamment en Palestine David Newhouse, qui est un jésuite, et qui nous disait aujourd'hui en Palestine, nous devons penser l'impensable. Et qui nous disait aussi nous sommes en lien, palestiniens, israéliens. La douleur, elle est pas mesurable. La douleur, elle est, et ça, on l'a vraiment entendu de tous. Il s'agit pas de mesurer une plus grande ou une moins grande douleur de ce qui s'est passé. Le 7 octobre a été un dévastateur, et ce qui se passe aujourd'hui, et le, alors nous, CFD Terre Solidaire, on a pris la décision de s'autoriser à utiliser le terme génocide aujourd'hui. ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est aussi dévastateur. Et ces deux douleurs, on ne veut pas. On est très attentif et c'est vrai qu'il faut être prudent parce que ces sujets-là sont délicats, à ne pas comparer les douleurs. Et ça, on l'a entendu de chacun. On a aussi rencontré au forum des otages avec le déplacement qu'on a fait avec la conférence des évêques un diplomate israélien et qui dit mais on est en train de penser l'impensable. Ça aura une fin un jour et on est en train de la penser quand même. Voilà, donc ça c'était des petites lueurs d'espoir moi que j'ai vues quand j'ai pu aller sur place et où chacun nous a à la fois encouragé à nous tenir du côté de l'espérance et à la fois à faire connaître ce qui se passe là-bas. Et ça c'est tous nous ont dit ça. Et dans les déclarations qu'il y a eu à la suite et du déplacement de la présidence et du déplacement qu'on a fait avec les organisations qui interviennent sur le terrain de Terre Sainte, tous nous ont dit revenez en pèlerinage, parlez de nous. Et les chrétiens, y compris parce que nous on travaille donc avec des organisations qui ne sont non confessionnelles. Elles sont israéliennes, elles sont palestiniennes. On travaille avec des chrétiens, avec des musulmans, avec des juifs. Enfin voilà, c'est pas on n'a pas du tout une entrée par rapport à ce sujet. Mais tous nous ont dit, les chrétiens, vous avez quand même une parole à dire sur ce qui se passe là-bas. Comment est-ce que vous pouvez dire une parole? Et voilà. Alors après, c'est vrai que on a toujours essayé, et c'est pas facile, hein, d'être le plus ajusté possible dans cette parole. Et c'est pas facile d'avoir une parole ajustée sur ce territoire aujourd'hui. Une parole ajustée pour nous, c'est effectivement peut-être une voix médiane qui n'est pas forcément non plus complètement à équidistance des deux peuples, qui reconnaît aussi qu'il y a un rapport de force aujourd'hui, et qui aussi réfléchit à la question de la justice. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Par exemple, dans le plan de Trump, la question de la justice est absente. Et ça, pour nous, ça a été... voilà, parce que pour nous, sans justice... Alors, cet été, j'étais aussi au Rwanda, donc on peut faire des parallèles, en tout cas sur les questions de réconciliation, de justice restaurative. J'ai travaillé notamment avec la commission justice et paix du Rwanda qui travaille sur la justice restaurative et on sait comment cette question de la justice est importante pour construire la paix et donc pour nous cette question de la justice, cette question du droit international voilà, elle va être absolument essentielle pour que quelque chose puisse naître sur ce territoire. Et c'est vrai que c'est délicat parce que on voudrait être là à la fois pour la justice, à la fois il nous semble en tant que chrétien, en tant qu'organisation chrétienne, qu'il y a une vraie faillite presque morale, humaine sur ce qui, enfin, on est sur quelque chose qui défie l'entendement par rapport à l'humanité, et à la fois évidemment que nous sommes contre l'antisémitisme, évidemment. Et donc, comment se tenir à cet endroit où on est juste des deux côtés, qu'on respecte la souffrance de chacun. Et ça, on l'a entendu, moi je me souviens de Marie-Armelle Beaulieu, qui est la responsable de Terre Sainte Magazine, qu'on a rencontrée à Jérusalem, et qui nous disait, mais la souffrance, elle est, et ça tous nous l'ont dit, quels que soient les acteurs, la souffrance, elle est extrême des deux côtés. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui un rapport de force, voilà. Et ça pour nous, c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler. Voilà, moi peut-être que je voulais peu partager pour commencer, pour ouvrir et puis passer la parole à d'autres, voilà, d'autres points de vue aussi.
Muriel de Berthier, je vais vous passer la parole. Vous êtes plutôt du côté israélien. Vous étiez en mars dernier. En Israël. Alors Virginie Amieux parlait de faillite morale et de la nécessité d'avoir une parole ajustée à dire. Comment tenir cette tension?
Je suis pas du côté israélien. Enfin, je connais très bien Israël. J'y suis allée très très souvent. je suis pas du côté israélien. Je suis bénévole au Service national des relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques. Et là, je parle en mon nom propre ce soir. Moi aussi, j'étais un peu étonnée par le titre. Et en fait, je l'ai compris comme une parole est-elle possible ? Évidemment, une parole est possible, mais une parole audible est-elle possible ? Et donc, en fait, moi, je vais en parler dans le cadre des discussions avec la communauté juive, puisque c'est notre rôle au Service national des relations avec le judaïsme que de maintenir ce lien avec la communauté juive. Donc, comment pouvoir dire quelque chose qui soit entendable. Donc, juste faillite morale, on y reviendra peut-être, parce que c'est peut-être un des éléments d'une parole ajustée, justement, que de faire attention à ce qu'on dit. Discussion avec le judaïsme dans le cadre des 60 ans de la déclaration Nostra Aetate qui sont fêtés partout en ce moment et qui d'ailleurs, petite aparté...
Donc Nostra Aetate, c'était la constitution terminale, la déclaration terminale du Concile Vatican II sur les relations avec
le changement complet de paradigme de relation avec le judaïsme et donc qui met fin à 2000 ans d'anti-judaïsme. Et qui dit oui à un dialogue fécond et non à l'antisémitisme. Et donc, quand on voit ce qui s'est passé en 60 ans, on peut être plein d'espoir pour plein de sujets, en fait. Moi, c'est ce que j'en retiens avant tout. En tout cas, on est dans ce cadre d'une amitié qui est maintenant forte et qui est fraternelle. Et c'est dans ce cadre qu'une parole est possible. Et je pense qu'une parole doit commencer par l'écoute. On doit commencer par affirmer l'amitié et puis ensuite on peut parler. Je vais donc commencer par ce que les Juifs de France ont vécu depuis le 7 octobre, puisque, encore une fois, on est dans ce cadre des relations avec la communauté juive en France. En Israël et dans la diaspora, beaucoup disaient jusqu'au retour des derniers otages vivants le 13 octobre dernier, nous sommes restés au 7 octobre. Il y avait plein de blagues sur le fait que les calendriers ne bougeaient plus. Mais ailleurs, l'attention s'est très vite focalisée sur ce qui se passait à Gaza, qui était pris sous le feu d'une riposte sévère de l'armée israélienne. Et donc on est passé aux autres jours. Je crois que pour écouter la communauté juive, il faut revenir au 7 octobre. Vous l'avez dit, la raison d'être d'Israël, c'était qu'il y ait sur terre un lieu où les juifs puissent ne plus être régulièrement attaqués ou tués simplement parce qu'ils étaient juifs. Et c'est un petit pays très fragile, menacé de tous les côtés, mais avec lesquels tous les juifs du monde ont un lien fort parce que c'est la première fois qu'il y a un bout de terre où ils ne sont plus à la merci du bon vouloir d'autres populations, mais qui sont chez eux et en sécurité. Et avec l'idée qu'il y avait ce fameux « jamais plus ». Jamais plus, il y aura aucun endroit où aller, parce que, comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait aucun endroit où aller. Au petit matin du 7 octobre, des premières images sont arrivées, prises par des gens, par leur téléphone en fait, horrifiés qui montraient des tueurs du Hamas dans les rues des kibbutz. Et la force de ces images immédiatement au matin du 7 octobre a été inouïe. Parce qu'il y avait l'intrusion de l'ennemi dans des lieux qui étaient réputés être sûrs, les rues des kibbutz. Ensuite, sont arrivées petit à petit les informations sur l'ampleur du carnage. Vous avez donné les chiffres. Les détails sur la cruauté inouïe des terroristes qui ont pris soin de filmer leurs exactions pour s'en vanter. Les découvertes de qui avaient été les victimes, des enfants, des bébés, des jeunes gens qui étaient venus danser. Les foules gazaouis en liesse accueillant les assaillants et leurs otages à Gaza. Et tout ça a fait revenir des images très intimes des pogroms, de la mémoire des pogroms. Donc on a eu un télescopage de l'inouï et de l'immémorial. Et l'idée qu'il pouvait y avoir un lieu sûr s'est effondrée pour les Israéliens et s'est effondrée pour toute la diaspora et à l'unisson. Et là aussi, on dit beaucoup, le jamais plus a fait place à ça recommence. Ou en anglais, never again is now. Et il y a eu immédiatement un mélange de détresse, de colère face à cette violence. Aussi, ce que disent les Israéliens, un peu de honte de ne pas avoir su protéger ses enfants. Mais aussi très vite, et avant même l'entrée de l'armée israélienne dans Gaza, la compassion du monde occidental s'est rapidement envolée. Et on a vu arriver le retournement où, en fait, Israël ne pouvait pas être victime, mais assez naturellement bourreau. Et s'est mis en place tout un lot de fake news, de glissements sémantiques, de clichés, etc., qui ont fait que pendant que les communautés se mobilisaient en faveur des victimes, des familles d'otages, des 300 000 personnes évacuées au sein du territoire israélien, on entendait partout « from the river to the sea », hein, de la rivière à la mer, ce qui veut dire du Jourdain à la Méditerranée, donc un appel à la destruction d'Israël. Ça, c'est arrivé vraiment avant que les troupes entrent dans Gaza. Hein. Donc en octobre encore, 2023. Nous avons tous vu dans nos rues les affiches des visages d'otages arrachés, même celle du bébé, le petit kfir Bibas. Et à titre personnel, je dois dire que je comprends toujours pas comment on peut arracher l'affiche d'un bébé, surtout quand on est à des milliers de kilomètres. Je comprends pas. Et face à cela, en fait, la communauté juive a ressenti que sa douleur était niée, que la violence était là, ici aussi, en France, que à la peur pour Israël s'est ajoutée la peur ici, et plus grave, un sentiment de solitude très très profonde. Et ça a été ressenti partout. Alors, voilà, nous. Je crois qu'en tant qu'amis chrétiens de ces communautés juives, c'était une des vocations hein, de ce service national des relations avec le judaïsme, et puis moi à titre personnel, c'est ce qui m'a conduit à m'y investir, on a eu un rôle qui était d'être aux côtés des communautés pour leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Et ce rôle, il a été très fort, de nombreux communiqués de soutien, de prises de parole très fortes de la présidence, dès le 7 octobre, hein, immédiatement, et appelant tout de suite, immédiatement aussi, à ne pas aller dans l'engrenage des violences, mais commençons par soutenir. La présence, quasiment chaque semaine, au rassemblement des familles demandant la libération des otages au Trocadéro pendant 2 ans. De nombreux événements auxquels on a pu participer, les anniversaires du 7 octobre, les voyages de la présidence a été rappelé, qui ont permis de rencontrer le forum des familles, notre voyage à nous aussi en mars. Et puis une intransigeance sur les lignes rouges de ce débat qui prenait un drôle de tour, intransigeance contre toute forme d'antisémitisme, et puis un rappel du droit à l'existence de l'État d'Israël. Et vous disiez qu'il y avait une demande de parole de la part des Palestiniens. Je crois que la communauté juive a été heureuse aussi qu'il y ait eu cette parole chrétienne, enfin en tout cas de notre présence. Enfin, c'était pas une parole, pardon. C'était seulement une présence, mais une présence relayée auprès d'eux. Et je crois que pour finir sur ce point de la présence, les otages sont libérés, mais le traumatisme il est toujours là. À la fois en Israël, à la fois dans la communauté juive française. Et effectivement, il y a du travail en santé mentale de part et d'autre des frontières et des murs. Alors ça, c'est pour la présence. Et je crois que c'est ce qui rend une parole audible parce qu'on a montré qu'on était du côté, qu'on savait écouter. Quand plus personne n'écoutait, en fait. Mais le rôle d'un ami, c'est aussi de parler. Et nous savons que douleur, peur, colère conduisent à se replier et à fermer son cœur. Il y a une immense solidarité de la communauté juive pour Israël, hein, de l'équipement des soldats à aller ramasser les fraises dans les kibboutz. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais tout cela a pu se faire aussi parfois avec un cœur sec chez certains face à la détresse des populations palestiniennes. J'ai été frappée, il y a un très grand historien israélien, grand militant de la cause des deux États, donc vraiment pas un supporter de Netanyahou, qui a publié son journal de cette période. Et juste après le 7 octobre, ayant vu des images du carnage, hein, il écrit dans son journal « Ce sont des bêtes sauvages ». Et que quelqu'un comme cela dise cela, montre à quel point le cœur peut se fermer, même un cœur très ouvert, parce que c'est vraiment un militant de la paix. Parce que le piège du Hamas était parfait, et en s'attaquant en particulier à la jeunesse et au kibboutznik qui était pacifiste.
Qui aidait souvent la population de Gaza à se faire soigner.
En fait, la population, voilà, ils ont, oui, ben, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même, là, pour le coup, ça avait été dit dans la presse. Il y avait une femme formidable qui organisait plein de transferts médicaux qui a été tuée comme les autres. On estime qu'ils savaient quelle était l'organisation du kibboutz parce que certains pouvaient avoir travaillé dans ces kibboutz. Donc voilà, conséquence bien connue des traumatismes, une douleur qui rend sourd. Et alors, donc une parole chrétienne dans cette douleur. Alors il y a quelqu'un qu'on aime bien ici, hein, qui est le père François Bouédec, et qu'une parole chrétienne, c'est une parole qui a vocation à aider l'autre à tenir en humanité. Et je crois que dans le cadre de, encore une fois, cette confiance, de cette amitié, on doit pouvoir aider nos amis à tenir en humanité et à garder le cœur ouvert. Et je crois que c'est ça le rôle d'une parole chrétienne en ce moment. Alors il y a le psaume 84, hein, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». On a besoin des quatre facettes pour tenir debout. Et ce sujet de la parole de vérité, il est d'ailleurs très présent dans la communauté juive en interne. Hein. Il y a des débats, vous avez peut-être vu passer ça, qui sont importants. Et nous, je crois qu'on peut aussi oser une parole pour briser l'armure dans laquelle des gens meurtris se mettent, briser la spirale de la violence, rappeler que la vengeance ne conduit qu'à de la haine en retour. Et alors on peut prendre plein d'images. Hein. Je réfléchissais, je me disais bon, c'est en fait un peu comme une corde de survie quoi pour pouvoir se dire dans la folie meurtrière on peut s'accrocher à cette corde pour se souvenir que non il faut pas tomber dedans. Ou alors on pourrait voir notre présence comme un bras qui est à la fois là pour soulager, apaiser, mais aussi montrer que d'autres souffrent. Et aussi un bras qui retient le bras qui veut frapper. Parce que là encore, on est là pour dire qu'il n'y a pas de solution dans cette voie-là et que c'est par la paix qu'on arrivera à sortir de tout ça. Mais, et c'est, ça me semble primordial, pour avoir cette parole, je crois qu'il y a trois conditions. D'abord, il faut montrer qu'on n'est pas passé au-dessus de la situation. C'est le premier point que je montrais. Je crois qu'une population ou une personne meurtrie, si elle se sent écoutée, s'ouvre davantage que quand elle est mise en accusation en permanence. Et de la qualité de notre empathie dépendra, je pense, l'efficacité de la parole. Deuxième point, de parler avec humilité. Parce qu'on n'a pas à le faire avec une posture de surplomb. On n'est pas des donneurs de leçons. Le christianisme, c'est pas une idéologie, c'est une religion très incarnée, qui est justement respectueuse de la complexité des jours, de la vie des conflits. Comment aurions-nous réagi, nous, dans des circonstances d'analogue? Comment avons-nous réagi dans le passé? Et puis, respectons que ce n'est pas notre souffrance directe, donc humilité. Et puis enfin, et c'est essentiel, une parole juste. Nous vivons dans une civilisation de l'image, des émotions, des informations en continu, où tout bascule à tout moment sous le coup de l'émotion. On a tous envie, hein, de bondir. Mais nous, on est chrétiens en France et on n'est pas en première ligne. Et donc, on a le devoir de prendre du recul et de faire preuve de prudence. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une parole réductrice, simplificatrice, généralisatrice. On ne peut pas colporter des informations qui n'ont pas été vérifiées, ni utiliser des mots qui blessent et qui ajoutent du malheur au malheur parce qu'ils font des amalgames dangereux. Je crois aussi qu'il faut savoir que les mots sont manipulés par ceux qui sont plus animés par l'antisémitisme que par la défense des Palestiniens. Et qu'on peut être amené à jouer leur jeu, ce qui n'aide pas à la paix. Il y a une formule qui a été employée récemment de mots avalanche qui écrasent tout, des mots après lesquels on ne sait plus parler en fait. Et je crois par exemple, j'ai lu un meurtrier du 7 octobre, on ne peut pas l'appeler un otage palestinien dans des prisons israéliennes. C'est pas l'appeler otage comme on appelle otage les jeunes filles. C'est pas possible. Donc une parole chrétienne pour finir quand même sur Gaza ne se limite pas à la communauté juive, hein, bien sûr, et vous l'avez dit, on est des deux côtés, on a la chance d'être des deux côtés. Le pape François aime beaucoup, vous le savez, enfin aimait beaucoup l'image du pont, une image qui est très reprise, mais qui est belle parce qu'elle dit quelque chose de la fragilité au-dessus d'un péril. Et un pont s'est ouvert des deux côtés. Et notre présence chrétienne, ici, là-bas, c'est naturellement un pont. On a la chance d'avoir des frères chrétiens qui vivent sur place, des deux côtés. On a la chance d'avoir une communauté chrétienne qui est diverse ici dans ses amitiés, dans ses contacts, dans ses sensibilités. Et nous devons donc être capables, ce que nous faisons ce soir, hein, de nous parler, et encore une fois parce qu'on n'est pas ici en première ligne, d'écouter et d'arriver à trouver un langage qui soit audible des deux côtés. Et pour aider à aller vers la paix après la douleur de ces deux dernières années, ou la douleur depuis 1948, ou la douleur depuis 1929, on peut choisir son point de départ, il y en a plein. On est face à une situation où c'est une lutte du droit contre le droit, disait Amos Oz. Il y a deux droits. Je crois que nous, notre rôle en tant que pont, c'est de tenir le fait qu'il y a deux droits, qu'il y a deux douleurs, comme vous le disiez, et que il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter l'engrenage de haine, de préjugés, de violence, et de tenir ce langage de paix. Le pape Léon, la semaine dernière à Assise, disait « Il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a que la paix qui soit sainte, parce qu'elle est la volonté de Dieu. » Et le cardinal Pizzaballa disait « Nous avons un devoir à l'égard de nos communautés, les aider à regarder devant, positivement, sereinement, vers un futur différent. » Et quand il dit nos communautés, je pense qu'il parle aux communautés dont vous allez parler, mais je crois que c'est plus largement nos communautés chrétiennes ici, les communautés juives à laquelle nous adressons, vos interlocuteurs, madame. La parole chrétienne, je crois que c'est une parole de paix si elle est précédée par une parole, par en tout cas des gestes d'amour.
Merci beaucoup. Hugues de Voilemont, le père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse catholique de la Sainte Famille à Gaza, disait récemment dans une interview à Vatican News qu'il voulait voir s'établir une paix juste pour tous, d'un côté et de l'autre du mur. Alors là, c'est pas l'image d'un pont, mais c'est l'image d'une brèche dans le mur, peut-être. Quelle parole peut-on tenir comme chrétien dans cette situation ?
Merci de citer le curé de la paroisse. On se souvient que le pape François l'appelait tous les soirs à 20h. Et donc, c'était aussi une fidélité du pape pour le soutien du curé de la paroisse latine que nous connaissons bien. Merci aussi, cela a été dit, de nous permettre ici aux facultés Loyola cet espace de parole. Parce qu'on le dit, je prévois aussi de le souligner, combien ce conflit aussi finalement et heureusement nous rejoint et peut aussi jusqu'à diviser nos communautés. Il y a des discours politiques qui aussi traitent du sujet, parfois l'utilisent. Et donc c'est très heureux qu'on puisse parler avec vous, mais j'espère aussi, si on vous en laisse le temps, nous sommes très bavards, si on vous en laisse le temps de pouvoir aussi échanger avec vous, parce qu'on est là aussi, chacun, je crois, pour apprendre de l'autre. En tout cas, je crois que c'est l'attitude qu'on souhaite avoir. Je parle effectivement comme directeur de l'œuvre d'Orient et comme vicaire général de l'ordinariat des Orientaux en France, simplement pour dire qu'on va fêter nos 170 ans l'année prochaine. Donc c'est une œuvre catholique qui cherche à être au plus près des populations, en particulier par l'éducation, par la santé, à travers aussi la restauration du patrimoine, pour donner aussi des conditions à ces chrétiens d'Orient. On est présent dans 23 pays, donc il n'y a pas que le Moyen-Orient, il y a aussi l'Ukraine, l'Arménie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, d'avoir des conditions de pouvoir rester si elles le désirent, sans juger ceux qui ou celles qui décident de quitter ce lieu, et ceux et celles qui décident d'y rester. Je souligne simplement qu'on a eu la chance de pouvoir proposer il y a 2 mois, juste à la rentrée en septembre, après le voyage du cardinal Aveline à Jérusalem, qui avait invité au retour des pèlerinages, eh bien de proposer à des jeunes professionnels de partir. Le coût est assez important d'un voyage en Terre Sainte. Et donc ils sont partis à 14, accompagnés par l'œuvre d'Orient. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont pu bien sûr aller à Jérusalem, mais aussi visiter un camp de réfugiés, aller à Taïbé, aller en Galilée. C'est l'importance d'avoir d'y être allé pour montrer qu'on ne les oublie pas et aussi combien les personnes qu'elles ont rencontrées avaient besoin de parler. Et cet été, j'ai rencontré des religieux, des religieuses à qui on permet de venir un temps se reposer. Parce que c'est aussi, il y a la fatigue évidemment sur place, et combien aussi ces moments de respiration peuvent aider des religieux et des religieuses présentes sur place, mais aussi donc les personnes, les étudiants qui étaient là, grand besoin de parler d'une vie quotidienne aussi très difficile, avec des bruits désormais de drones en permanence, et puis de voir dans le ciel, non pas des étoiles filantes, mais en permanence des missiles. Donc ça, c'est le quotidien que des jeunes Français ont découvert il y a 10 jours. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment l'attitude très importante de pouvoir nous mettre aussi à l'écoute de ces personnes. L'œuvre d'Orient a désormais un couple en permanence présent à Jérusalem. Ils ont attendu 8 mois pour avoir un visa. Ils ont attendu à Chypre. Et puis maintenant, ils sont présents sur place. On l'a déjà dit, je pense tenir une parole chrétienne, elle est possible, elle est nécessaire, elle appelle aussi à agir. La vocation chrétienne est sans doute d'entrer au cœur des drames humains, comme l'a fait le Christ lui-même. On l'a déjà souligné, en portant un regard qui ne se réduit ni aux identités, ni aux rivalités politiques, mais qui se nourrit de l'Évangile. Un regard de fraternité, un regard de compassion, un regard de justice. Il nous faut renoncer, c'est difficile, même pour nous, à la logique de l'affrontement pour s'approcher, en tout cas tenter de s'approcher de la complexité du réel. Parce que nos vies sont compliquées et les simplifications sont mauvaises. Et justement, la foi chrétienne, la parole chrétienne, nous aide à nommer ce qui se passe dans la complexité des situations. Une parole chrétienne, cela a été souligné, doit reconnaître la souffrance de tous, des Israéliens, des Palestiniens, des croyants et des non-croyants. L'éthique chrétienne commence par la reconnaissance du visage de l'autre, par ce regard qui empêche de réduire quiconque à une identité ou bien un camp déterminé. Gaza, aujourd'hui, nous le savons, reste un cri de douleur et un défi moral pour le monde. C'est une terre qui saigne, un lieu où le mystère du mal et du péché se révèle dans toute sa violence. Là où tout semble perdu, la foi nous rappelle que chaque vie reste sacrée. Mais la parole ne suffit pas. Nous savons bien, en régime chrétien, il y faut de l'action et de la prière. Le Verbe s'est fait chair. Nous avons entendu les béatitudes il y a quelques jours. Jésus ne fait pas qu'annoncer ce chemin de bonheur qui passe par la croix. Il les emprunte lui-même. Parlons de Gaza et cherchons aussi concrètement, si on le souhaite, un chemin d'engagement. Remarquons, Muriel vient de le faire, que nous parlons ici ce soir d'une réalité, nous en parlons à distance. Ça peut être une chance, ça peut être aussi un risque. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter aussi, et on l'a fait depuis tout à l'heure, donner la parole à ceux qui vivent sur place. Peut-être un premier point que je voulais souligner après cette introduction, c'était de quoi parlons-nous ? Merci de l'avoir fait au début. Peut-être que c'est important, j'essaierai de le faire, de s'inscrire aussi dans un temps long. C'est ce que permet la foi chrétienne et la foi aussi du peuple d'Israël, de s'inscrire dans un temps long. On sait bien que les conflits à Gaza 2008, 2012, 2014, 2021 duraient en général 20 jours. Cette année, cela fait plus de 2 ans. On l'a souligné, une attaque d'ampleur inédite par le nombre de morts, par la plus meurtrière depuis la création de l'État d'Israël. Des attaques coordonnées, des enlèvements massifs, un choc collectif sans précédent. Deuxième point peut-être qui marque cette rupture du 7 octobre, c'est une guerre totale. Israël répond par une opération visant à éradiquer le Hamas. On a nommé le nombre de personnes tuées. On peut souligner que c'est plus de 80% de civils. Et cela a été documenté par des médias et par des données du gouvernement, du renseignement israélien. Donc une attaque d'ampleur inédite, une guerre totale et puis un impact symbolique et mondial. Nous étions tous terrifiés de voir cette attaque avec filmée par ces caméras. La guerre, nous le savons bien, à Gaza, en Israël, mais aussi à travers le monde, devient psychologique et numérique. Les images instrumentalisées, les images qu'on détourne, les discours polarisés, des informations verrouillées. Actuellement, il y a un très beau documentaire sur Arte qui parle de la couverture du conflit par les médias. Les médias, vous l'avez souligné, étaient interdits à Gaza. Seul l'AFP Gaza est resté. Et j'ai découvert ce chiffre terrifiant. 200 journalistes ont été tués. C'est 3 fois plus que la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que pour autant nous ne sommes pas dans un moment favorable ? Peut-être nous vivons-nous aujourd'hui un temps fragile. On sait que le cessez-le-feu est régulièrement pas tenu. Mais peut-être un temps fragile, mais ouvert. Un cessez-le-feu précaire, un plan de reconstruction, des paroles qui demandent aussi évidemment à devenir des actes. Je souligne 2 choses du plan américain. Il y a 20 points, vous les connaissez. Le premier, c'est le chemin vers l'autodétermination ou un futur État palestinien qui est reconnu comme une aspiration, mais conditionné à la mise en œuvre des réformes. C'est vrai que c'est une demande du Saint-Siège, c'est une demande de la France désormais, d'un État palestinien qui est aujourd'hui dans cet accord qui n'est pas garanti, mais qui est simplement envisagé. Ça sera sûrement dans les questions, en tout cas un chantier très important. Ce rapport aussi, on le sait, a été assez unilatéral, sans véritablement participation des Palestiniens pour le construire. Il y a toujours un risque de ne pas respecter la dignité des droits des Palestiniens. Et puis un autre numéro qui parle d'une instance de dialogue interreligieux et pour changer les récits des Israéliens comme des Palestiniens, pour promouvoir la coexistence et la tolérance. Ça, c'est très important, la question des récits, l'histoire, le traumatisme, la mémoire, comment et qui écrira ou aidera à écrire ces récits, cette mémoire, et on sait combien la mémoire est importante. Sans justice, sans réparation, sans remise en cause des structures d'oppression, de déséquilibre, le changement du récit risque de rester symbolique et inefficace. Alors une parole chrétienne sur Gaza, elle s'enracine, cela a été déjà dit, dans l'Évangile. Heureux les artisans de paix. Le Christ, si on le regarde, comme on le fait à l'école des Jésuites, si on l'écoute, ne choisit pas un camp. Jésus pleure sur Jérusalem, sur cette ville déchirée. Jésus s'identifie à la souffrance de tous, révélant que la vraie victoire n'est pas militaire mais spirituelle. L'Évangile, on le sait bien, commande de porter la souffrance de l'autre. Une sœur de Saint-Joseph de l'Apparition de Jérusalem nous disait récemment « tenir les souffrances des deux mains ». Cette attitude permet de lutter contre les discours identitaires et l'essentialisation qui déshumanise. Notre monde, on le sait bien, en France, c'est partiellement vrai, partiellement trop souvent polarisé, et il nous faut défendre justement la complexité et la nuance. Une parole d'intelligence, comme peut-être ce soir on essaie de la voir, interlegere, une parole intelligente, c'est celle qui cherche à relier, qui crée des ponts. Cela a déjà été dit. Le cardinal latin de Jérusalem, Pizzaballa, invite à garder des mots qui nous maintiennent à portée de voix. C'est une belle invitation. Garder des mots qui nous maintiennent à portée de voix les uns des autres. L'éthique chrétienne est une éthique du lien. Elle rejette la domination, mais aussi la neutralité indifférente. Elle choisit la fraternité. Alors peut-être que dans cette épaisseur historique, il est bon aussi de regarder Gaza, et c'est ce que nous cherchons aussi à faire à l'œuvre d'Orient, regarder ces lieux du Moyen-Orient, mais aussi d'autres lieux, non pas seulement comme des lieux qui saignent, et c'est le cas, comme des lieux où des chrétiens sont martyrisés, ils le sont, mais aussi comme des lieux où les chrétiens et les autres, sur place, ont des choses à nous dire. Ils ont un message à nous dire, ils ont à nous faire grandir dans notre foi. On n'a pas simplement à les consoler, on a aussi à accueillir, et c'est eux, bien souvent, quand on les visite, qui nous édifient. Donc Gaza, on le sait bien, depuis très très longtemps, a une place singulière dans l'histoire du Proche-Orient. Gaza est un carrefour des grandes civilisations. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de problèmes dans ce lieu. Elle fut également un lieu de rencontre entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont les traces demeurent visibles dans les monuments, dans les traditions, dans la mémoire collective. On peut évidemment aussi ici se rappeler de Gaza dans les Actes des Apôtres. Philippe, qui entend l'ange du Seigneur, qui lui dit « Mets-toi en route et pars vers le midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » On connaît bien cet épisode et je pense que beaucoup d'entre nous l'aimons. Cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien sur cette route de Gaza, qui est évidemment fondateur pour l'universalité de la mission chrétienne. Cette scène se déroule dans une zone considérée comme périphérique et déserte, un lieu de passage, un lieu de frontière. Or, c'est précisément là que l'Évangile va être annoncé et qu'il franchit les limites du monde juif. L'eunuque, cet étranger, ce marginal, ce croyant en recherche, devient la figure de l'humanité en quête de sens. On le sait bien, cet Éthiopien lit déjà l'Écriture, mais il ne la comprend pas complètement, sans être accompagné. Philippe ne s'impose pas, il s'approche, il écoute, il explique et finalement donne le baptême. Ça rejoint peut-être les attitudes que tu nous rappelais tout à l'heure. Sur cette route de Gaza, toujours aujourd'hui déchirée par la guerre, l'Évangile a déjà été proclamé comme un appel à la fraternité universelle, et je crois que nous trois cherchons à la vivre ici et ailleurs. Ces communautés aujourd'hui, beaucoup d'entre elles aussi ont décidé de rester. Beaucoup sont partis, beaucoup sont restés. Les chrétiens de Gaza témoignent dans l'épreuve, ils restent, ils servent, ils prient. La paroisse de la Sainte Famille est devenue un refuge. Les sœurs du Rosaire, du Verbe incarné, de Mère Teresa, ces trois communautés religieuses qui sont restées, ont choisi de demeurer malgré les bombardements. Pizzaballa disait « L'Église est ici pour prier et pour rester ». Simplement pour finir, et c'est peut-être des pistes qu'on aura sûrement à travailler avec d'autres, dire une parole et agir. Je disais, c'est faut tenir une parole, mais il faut aussi s'engager si on le souhaite. Et chacun comme il peut. Peut-être trois points. C'est aussi suggéré par l'œuvre d'Orient aussi. On a tout un département, si on peut dire, de plaidoyer, d'action aussi auprès des instances politiques et internationales, parce qu'on peut faire à notre niveau, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais essayons de faire ce qu'on peut. Le premier point, peut-être, c'est la rencontre de l'autre pour un espace de co-création. Quand cela sera possible, l'importance d'avoir des programmes de co-création entre Israéliens et Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, avec des programmes d'éducation pour des programmes de comportement citoyen, la découverte du bien commun, la santé, la psychologie, ça a été souligné, c'est très important aujourd'hui. Et puis aussi tout ce qui concerne l'écologie et les questions de l'eau, puisqu'en fait, les uns et les autres, ils sont devant les mêmes défis. Des défis de sécurité, des défis économiques, des défis de rencontre de l'autre. Peut-être un deuxième point, c'est le plaidoyer de la réciprocité, essayer de chercher l'influence économique, sociale et politique que nous avons, pour une part, pour un plaidoyer, pour conditionner l'aide et pour soutenir les chrétiens de Palestine. Puis peut-être le troisième chemin qui pourrait être travaillé, c'est évidemment l'éducation à la résilience non violente et à la mémoire partagée. J'en ai déjà dit quelques aspects. Et déjà aujourd'hui, dans certains pays du Moyen-Orient et en France, il y a un programme soutenu par l'œuvre d'Orient et aussi le ministère des Affaires étrangères pour de la formation à la citoyenneté inclusive, dire aussi la découverte de ce qu'est l'autre pour essayer de vivre ensemble. Voilà quelques points que je voulais vous souligner.
Merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur.
Oui, je voudrais vous poser une question sur... Pardon. Pourrait-on, pour une parole chrétienne, revenir à la Genèse, à l'Exode ou à Josué, qui disent clairement qu'à Canaan, il faut exterminer les populations? Je ne fais pas ça pour une espèce d'exégèse misérabiliste, mais parce que ce narratif est employé clairement par les Israéliens, ou du moins par beaucoup d'orthodoxes. Donc, est-ce qu'on peut parler de Canaan en chrétien et des textes de l'Ancien Testament sur cette question? Et puis peut-être une toute dernière question. Terre Sainte, que vous avez citée, disait que, je peux lire le texte, mais que l'Église de France avait montré une certaine parcimonie dans son soutien à Israël. Enfin, pardon, à la Palestine. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une tendance différente dans la conférence des évêques de France? Et est-ce que c'est lié à la durée dont vous avez parlé du conflit? Est-ce que c'est lié à un changement de personne? Est-ce que c'est lié à une position collective dans la conférence des évêques de France qui signifierait qu'on a une évolution, je dirais, dans les positions? Merci. Par ailleurs, quand il y a, je vous remercie d'avoir cité la nécessité d'informer, mais quand on tue 200 journalistes et que personne ne peut entrer, ça devient obscène. Et si vous pouvez dire quelques mots sur la parole chrétienne des évangélistes.
Muriel, vous voulez parler de Canaan?
Canaan. Il y a un livre qui est très bien qui s'appelle Les versets douloureux, qui parle justement du livre de Josué. On peut pas, enfin voilà, c'est pas notre lecture littérale, c'est pas non plus la lecture de l'immense majorité des communautés juives. Et on peut pas, quand je parlais tout à l'heure de généralisation, faut faire attention, on peut pas utiliser les paroles de quelques hommes politiques extrémistes qui ont fait 3% des voix aux législatives d'il y a 3 ans et dire que c'est la parole des Israéliens. Donc je pense pas.
Malheureusement, c'est eux qui permettent à Netanyahou de se maintenir au pouvoir.
Bah, c'est le problème des. Alors, c'est on va pas rentrer dans la question politique, parce qu'encore une fois, je crois que comme vous le disiez aussi, on est là sur une parole chrétienne, on n'est pas dans une parole politique, on n'est pas dans un forum politique, je crois, ni dans un forum juridique. pour les définitions précises des termes de droit. Donc là, juste, voilà, il faut, on peut pas imaginer, enfin, on peut pas, il faut pas se représenter Israël. Le premier ministre israélien a employé l'expression Sparte. Ça a choqué énormément de monde. Il a une cote de popularité en chute libre. Enfin, il faut pas se dire que les paroles d'une personne, d'un homme politique, représentent l'ensemble de la population israélienne. Et encore moins, évidemment, les communautés juives de l'étranger. Donc, je crois qu'on voilà, c'est la paix. Pardon, l'autre point.
Peut-être Hugues sur les évêques, l'évolution des évêques.
Alors Muriel a bien souligné, hein, dès le 7 octobre au soir, il y a eu un communiqué de la conférence, c'est-à-dire du conseil permanent. C'est 10 évêques sur 100, mais quand ils engagent la parole du conseil permanent, c'est la parole de l'Église en France, en tout cas, pour évidemment condamner ces exactions, demander la libération des otages et la conférence. Vous savez, moi j'étais secrétaire de la conférence. On a pleuré avec les Israéliens, on a pleuré avec les Palestiniens, on a rencontré des autorités, les plus hautes autorités du judaïsme en France. On a rencontré également la représentante de Palestine en France. Maintenant, les évêques font des choses dans vos diocèses aussi ou en France, et puis parfois ça ne se sait pas, où les médias, qui sont certains médias, honorent la diversité justement des situations, mais d'autres, nous le savons bien aussi, veulent hystériser le débat comme l'utilisation d'une phrase dans une Bible, alors qu'on sait très bien que voilà, la manipulation de la parole de Dieu, elle existe chez beaucoup, mais qu'il faut y résister. Donc aujourd'hui, on a été, je crois que la posture de l'Église sur ce sujet-là, comme sur les autres, c'est de parler à tous. Moi, comme directeur de l'œuvre d'Orient, j'ai rencontré à nouveau le jour d'ailleurs de la déclaration par la France de l'État de Palestine, j'ai rencontré la représentante de la Palestine et je suis allé en même temps, si on peut dire, j'ai souvent accompagné le père Christophe Le Sourd, qui est aujourd'hui le secrétaire général, au Trocadéro, pour aussi être simplement présent avec nos amis juifs comme nous le sommes avec nos amis palestiniens. Donc ça c'est important. Une petite précision, c'est qu'en septembre dernier, parce que c'était difficile d'y aller sur place, donc effectivement on a essayé d'aller à Gaza, on n'a pas pu, mais nous sommes allés à Jérusalem, on a été au forum des otages, passé un temps avec Chani Deck, que vous avez rencontré après, ce diplomate qui connaît très bien la France, et puis nous avons aussi rencontré des Palestiniens. Donc on essaie d'être sur cette ligne de crête, d'engagement avec les uns et les autres, et après de s'engager au plus proche pour aussi des moyens qui vont être dans les années à venir immenses, parce qu'il faut aussi penser la reconstruction. C'est peut-être trop tôt, je ne sais pas, mais en tout cas il faut, et donc les besoins seront là et on aura besoin de tous.
Vous voulez prendre la parole?
Oui, par rapport à la question, effectivement, on est allé en Palestine en avril dernier avec donc 4 évêques. Alors on a perdu au passage Monseigneur Bustillo, parce que le jour où on est monté dans l'avion, c'était le décès du pape, donc il a dû repartir pour le conclave. Mais on était avec donc 3 évêques et 2 représentants de la conférence. Et le projet, c'était vraiment d'aller à la rencontre. Alors on est avec, il y avait l'œuvre d'Orient, il y avait le Secours catholique, il y avait différentes organisations, et d'aller à la rencontre des organisations et des organisations qui essayent de construire la paix. Moi, ce dont je me souviens vraiment, c'est, alors je pense que la parole, elle n'est pas simple au niveau de la conférence. Moi, ce que je me souviens, c'est l'expression des personnes disant mais on s'est pris une sacrée claque. C'est-à-dire qu'on a réalisé quand même des choses qu'on n'avait pas vues, en entendant les uns les autres, Israéliens comme Palestiniens, et on s'est pris vraiment, on a compris la douleur, on a compris la douleur des Palestiniens, on a compris la douleur des Israéliens et des en rencontrant les uns les autres. Et alors je partage un peu aussi l'idée, enfin on partage un peu l'idée que parfois on souhaiterait une parole un peu plus forte, mais je pense qu'elle est pas simple, voilà. Donc ça c'est vrai, parce que j'ai pu le vivre, puisqu'on a, quand on a travaillé au retour de cette mission commune à une prise de parole commune, il y en a eu des versions. Voilà. Donc effectivement, la parole n'est pas simple. Nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est effectivement de donner vraiment la parole aux personnes localement, parce que c'est ce que vous dites. Notre parole à nous, elle est difficile. C'est pas notre conflit, même si on le voit et qu'il y a des choses, voilà. Et puis je voulais juste souligner par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la rencontre de l'autre et la co-création. Et je voudrais souligner que ça existe. Aujourd'hui, en Palestine, en Israël, elle existe, cette co-création. On l'a vu, je me souviens d'un hôpital qui est d'ailleurs tenu par l'Œuvre d'Orient à Jérusalem, où c'est un hôpital de gériatrie, où travaillent des Palestiniens et des Israéliens. C'est absolument incroyable de se dire que c'est encore possible. On a, nous, des organisations, on a une organisation en Israël, où travaillent des Israéliens et des Palestiniens. On a David Newhouse qui nous dit, on a un groupe de réflexion théologique entre les trois religions qui sont présentes et on travaille ces questions-là. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi important de se dire que on nous attend pas pour faire de la co-création, quoi. C'est-à-dire que, alors, il y a des endroits où ça n'a plus été possible, hein. Parce que là, vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus exactement ce que vous aviez comme expression en disant par rapport à ce qui s'était passé le 7 octobre, où effectivement il y a eu des atrocités. Moi, j'ai entendu un militant des droits de l'homme palestinien me dire mais on n'est pas des chiens, pourquoi on nous traite comme ça? Et il m'a dit, il nous a dit. Si on nous traite comme ça, nous, aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité demain? Et ça, c'est des choses aussi, moi, que j'ai retenues. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est vrai qu'il y a des parallèles. Et à la fois, bon, c'est vrai que moi, ça me paraît important de dire quand même aujourd'hui que les forces en présence ne sont pas les mêmes. Voilà. Et ça, c'est, on peut pas. Et que la question de la justice, la question du droit international. Alors, j'aimerais que vous précisiez, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, la question des deux droits, parce que pour moi, il n'y a pas deux droits. Donc ça, j'ai pas... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux droits.
Ah, droit contre droit.
Oui,
droit contre droit. Parce que la présence palestinienne, elle est légitime, la présence israélienne, elle est légitime.
Ah oui,
donc les deux droits sont okay, légitimes.
Okay, oui,
c'était pas
droit-là.
C'était pas droit international contre autre chose.
L'existence des uns et des autres.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah oui, ça, de toute façon, on est bien.
Sinon, ce serait facile.
Ouais, bah oui, non, c'est bien pour ça que le sujet est bien complexe.
Peut-être une information, parce que juste une petite précision. L'assemblée des évêques, puisqu'on parlait de, a commencé ce matin à Lourdes. Sachez que, comme à chaque assemblée, l'actualité de la France ou du monde n'est pas absente. Et samedi, il y aura un temps sur la question de Terre Sainte, avec une vidéo, puisqu'il ne peut pas être présent ni par visio ni sur place, du cardinal Pizzaballa. Il y aura son vicaire patriarcal, M. Chomali. Il y aura le consul aussi de France à Jérusalem. Et le cardinal Aveline m'a proposé de venir aussi pour échanger un petit peu sur la situation. Donc, voilà, c'est aussi une forme de mobilisation, de fait, aussi, peut-être qui est peut-être un peu plus possible depuis, avec peut-être cette ouverture, ce moment qui s'ouvre. On espère en tout cas que ça sera possible. Mais il y a d'autres questions.
Oui, bonsoir. Vous évoquez les Palestiniens, mais il faudrait quand même distinguer. Vous avez le Hamas à Gaza. Et vous avez le Fatah en Cisjordanie. C'est pas la même autorité, hein. Et il me semble que le Fatah, le parti de Cisjordanie, a condamné les événements du 7 octobre commis par le Hamas. Ça, il faut aussi le dire. Et qu'est-ce qui justifie le comportement de l'État israélien en Cisjordanie? Les Cisjordaniens, les Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas massacré d'Israéliens sur la zone frontalière, comme le Hamas a fait à Gaza. qu'est-ce qui permet de justifier la colonisation et l'oppression d'Israël en Cisjordanie? On pourrait évoquer, on pourrait aussi reprendre le titre, une parole chrétienne est-elle possible sur la Cisjordanie?
Il veut répondre.
Pas simple. Oui, oui.
Il parlait de Gaza, non?
Bien sûr qu'on peut parler de la Cisjordanie, hein. C'est et d'ailleurs là, on parlait tout à l'heure des déclarations qui ont été faites de chrétiens sur place. On a eu des déclarations dernièrement des prêtres basés à Taïbé, que Melkite orthodoxe et catholique, déclaration commune par rapport à des. Effectivement, rien ne justifie ça. Rien ne justifie ça. Là, je lisais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu. Il y a eu 200 attaques de colons sur la récolte des olives en Palestine aujourd'hui. On est sur une espèce d'escalade. On a l'impression, enfin moi c'est l'analyse qu'on en a, que plus personne n'arrive à arrêter. Parce qu'effectivement, tant qu'on avait les yeux tournés sur Gaza, nous ce qu'on a pu constater, c'est qu'en Cisjordanie, les difficultés ont augmenté. C'est-à-dire que moi, entre décembre 2024 et avril 2025, j'ai vu l'arrivée des soldats israéliens dans les camps à Bethléem, ce qui n'avait jamais été le cas. Et puis on était en lien avec le monastère de l'Emmanuel à Bethléem, où les sœurs disaient, nous on n'a jamais connu autant de difficultés que maintenant par rapport aux soldats. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là. Et ce que je voudrais dire aussi sur les chrétiens, c'est que les chrétiens connaissent la même situation. C'est-à-dire que, voilà, à Taïbé, on le voit bien, les chrétiens ne sont pas, sont parmi les personnes du territoire. Ils ne sont pas différents. Et ça, moi, je pense que c'est aussi important qu'on ne les traite pas. Alors, ils sont 1 à 2%, hein, on dit 2% en Israël, 1% en Palestine, donc c'est très peu. Mais ils sont à égal avec l'ensemble des citoyens, et ils subissent les mêmes choses que les voilà. C'est vrai que c'est...
Merci. Madame, parlez.
D'accord. Madame, je vous ai écouté. Vous avez dit le témoignage de ce monsieur palestinien, on nous traite comme des chiens. Qui c'est on? Est-ce que vous pouvez préciser, je vous prie?
Alors il parlait de Gaza et il parlait des frappes israéliennes à Gaza en disant ça. Et d'ailleurs, enfin là-dessus, il y a un parallèle hein, à ce que vous avez dit côté de ce qui s'est passé le 7 octobre, où ils ont été aussi traités comme des chiens, ou je ne sais plus quelle est votre expression à vous. Mais c'est clair aujourd'hui, et ça a été dit. Je veux dire, les politiques, j'ai pas en tête les verbatims, mais enfin, un certain nombre de déclarations des politiques israéliens parlent vraiment comme des chiens. Des Palestiniens. Donc, on est arrivé à des niveaux, effectivement, de violence très grande. Donc, le 11, c'était pour le coup les Israéliens et ils parlaient en l'occurrence des frappes.
Oui, on est dans. C'est le cœur du problème, c'est que les extrémistes ont toujours plus de voix que les gens plus raisonnables et on les entend très fort et ils agissent très fort aussi. Et je crois que voilà, tout l'enjeu est d'essayer de faire que la spirale, enfin l'engrenage là est terrible. Et ce que vous disiez sur Taïbé, c'est affreux. Enfin, on peut pas dire autre chose que c'est affreux. Il faut que ça s'arrête. Et bon, voilà, moi je partage l'espoir de paix que Monseigneur de Volmont nous partageait. C'est-à-dire qu'on a là les otages sont libérés, c'est déjà un pas énorme en fait, parce que la présence de ces otages fermait complètement les esprits. Je pense que on peut espérer, en tout cas, que la société israélienne réagisse davantage et en tout cas elle entend qu'il y a un problème. Elle entend qu'il faut arrêter cette guerre. Elle le dit elle-même. Elle est très divisée. Vous avez peut-être vu, hein, avant même la libération des otages, il y avait dans les manifestations, puisqu'il y a des manifestations tous les samedis soirs en Israël depuis... enfin, ça avait commencé avant le 7 octobre, ça s'est arrêté et ça a repris contre le gouvernement et contre cette guerre. Il y a des gens qui ont des visages d'enfants palestiniens qui viennent montrer les visages des enfants palestiniens dans ces manifestations. Donc voilà, je crois qu'on peut avoir enfin en tout cas nous on doit être là pour entendre les deux souffrances, faire que les deux entendent les deux souffrances. Donc voilà, nous dans notre rôle vis-à-vis des communautés juives, il y a rappelé la souffrance palestinienne et inciter au cessez-le-feu. Je pense que dans le rôle des interlocuteurs des Palestiniens, il y a aussi rappelé la souffrance des Israéliens. Et faire entendre aux Palestiniens que c'est pas que tous les Israéliens ne sont pas des gens avec un couteau entre les dents venus massacrer. En l'occurrence, c'est eux qui ont été massacrés. Et faire que les choses avancent de part et d'autre et que les interlocuteurs de paix reçoivent du soutien. Et voilà, notre communauté chrétienne est tellement grande. Enfin, on est tellement présent. Qu'on devrait quand même pouvoir faire en sorte que les gens dans ce petit territoire arrivent à travailler ensemble, enfin, j'espère.
Et merci d'avoir rappelé aussi, monsieur, de distinguer. De fait, évidemment, le Hamas, beaucoup de Palestiniens sont victimes aussi du Hamas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça pose la question voilà, des acteurs politiques aussi, pour l'avenir de la Palestine. Et puis il y a des enjeux, on le connaît, d'autres puissances aussi régionales qui interviennent dans ce conflit, qui financent, qui interviennent. Donc voilà, c'est aussi ça souligne aussi la complexité de ce conflit.
Pas uniquement régional.
Non, pas uniquement régional. Oui.
Monsieur,
bonsoir. Nous parlons de la parole chrétienne sur Gaza. Mais quelle est la parole des responsables juifs sur Gaza?
Et oui, voilà. Comme vous venez de le dire, lesquels? Non, il n'y a pas une parole unique. Hein. En revanche, on peut parler de la parole des responsables, enfin en tout cas du grand rabbin de France, hein, puisqu'on est en France, encore une fois, on n'est pas israélien, et qui a signé, il y a eu deux, hein, je crois, appels de la conférence des cultes de France. Je me tourne vers mon voisin qui est plus habitué aux termes officiels. En tout cas, des textes, des appels des responsables des différentes confessions qui appelaient à la fois à la libération des otages, bien évidemment, et encore une fois, c'est toujours essentiel de le dire en premier, et à l'arrêt des combats. Et l'accès humanitaire, bien évidemment.
Monsieur. Oui, pour reprendre la problématique de la parole chrétienne, est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur ces deux dernières années? Il n'est pas très brillant, puisqu'en fait, il y a eu énormément d'occasions manquées où la parole chrétienne aurait pu s'exprimer. Et vous venez de parler justement des propos des responsables de la communauté juive. J'ai un exemple précis où on aurait aimé entendre une parole chrétienne. Il y a à peu près un an et demi, le grand rabbin de France a dit dans une interview, d'une part, qu'il approuvait la façon dont Israël se comportait à Gaza et il espérait que l'armée israélienne finirait le travail. Vous savez ce que ça veut dire? Et on n'a entendu aucune réponse, aucune réaction de l'Église catholique, le silence total. Là, on aurait aimé entendre une parole forte. Et rien du tout. Comment expliquez-vous ça?
Non, c'est pas. Je vais commencer par dire, mais qui porte la parole chrétienne? C'est-à-dire que là, depuis que tout à l'heure, on parle des évêques, des responsables de culte. Bien sûr, c'est important, Mais si nous sommes nombreux dans cette salle, il n'y a aucun évêque, il y a des chrétiens qui cherchent à se former, qui ici aux facultés de Loyola cherchent à poser une parole. Voilà, on voit bien que dans la salle, les questions, elles sont, c'est normal, hein, ça prend assez vite, voilà, aux tripes. Voilà. Donc la parole chrétienne, bien sûr, on l'attend de nos responsables, mais d'abord, faudrait relire cela. Peut-être que je pense que le grand rabbin aussi a dit autre chose. Et à la fin de l'été, il a été courageux aussi sur ce que faisait l'État d'Israël. Donc, à la rentrée, il a été très clair sur ce sujet-là. Voilà. Et puis après, il y a nos communautés aussi. Il y a tenir nos communautés. Je pense pour un responsable politique ou religieux, il doit aussi tenir compte de sa communauté. Il n'est pas complètement un électron libre et donc il doit tenir aussi il doit viser la communion dans sa propre communauté et non pas la division.
Et moi j'ajouterais aussi, hein, la parole chrétienne c'est aussi celle des organisations, c'est-à-dire que ce soit le CCFD, Terre Solidaire, que ce soit, vous disiez, l'œuvre d'Orient aussi qui a pu agir au CCFD Terre Solidaire depuis le début. On appelle au cessez-le-feu, on appelle à l'arrêt des accords Union européenne et Israël, on appelle évidemment l'entrée de l'aide humanitaire, on appelle au règlement par le droit international, à l'autodétermination et à la présence des Palestiniens dans les négociations de tout ce qui va se faire après. Et moi je dirais quand même, effectivement, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que oui, nos responsables, je sais aussi pour en côtoyer que c'est pas forcément le plus simple, mais on a des organisations et on en fait partie qui ont une parole et elle est forte cette parole. On peut vous le dire. Enfin voilà, en février dernier, quand le conseil d'administration du CCFD Terre Solidaire a autorisé l'ensemble des équipes à utiliser le terme génocide, je peux vous dire que ça nous a un peu travaillé quand même, hein. C'est des choses et on s'est engagé là-dessus en disant on a suffisamment d'indices concordants, on a suffisamment lu, il y avait les rapports d'Amnesty, il y avait les rapports de la FIDH, c'est un parti pris avant même que ça soit éventuellement et officiellement reconnu. Mais voilà, donc tout ça, il y a des organisations chrétiennes et on n'est pas les seuls, hein. L'œuvre d'Orient s'est beaucoup engagée, le Secours catholique s'est beaucoup engagé aussi, et je pense que chacun aussi on a à s'engager. Et moi je suis quand même relativement frappée par le fait aujourd'hui on a peu de réactions négatives sur nos prises de position. C'est-à-dire que voilà, on a plutôt des encouragements, et je pense que chacun doit tenir aussi peut-être l'endroit où il est et pour avoir beaucoup été dans des institutions, je sais que c'est pas forcément simple, mais en tout cas il y a des organisations chrétiennes qui s'engagent et qui s'engagent fortement. On a un réseau israélo-palestinien de 300 personnes au niveau du CCFD Terre Solidaire, de personnes qui s'engagent partout sur les territoires. Ben voilà, on signe des tribunes, on a signé encore une tribune il y a peu de temps une tribune associative dénonçant un génocide à Gaza. Enfin voilà, il y a des choses, c'est-à-dire que voilà.
Oui, après, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait qu'une parole doit être efficace et audible. Et quand on emploie le mot génocide, on ferme plein d'oreilles. Et on rend son discours pas très utile, en fait, parce que il n'est plus entendu. Et il faut savoir ce qu'on entend par génocide. Vous pouvez rire, monsieur. Moi, je trouve pas ça très drôle comme sujet. Mais voilà, il y a une définition de droit international. Il faudra un jour que la question soit étudiée par des gens qui sont spécialistes du sujet. En ayant les faits,
attendez, je crois qu'on
cherche. Les faits. Vous savez, on a tous eu de part et d'autre des faits qui se sont avérés être faux, hein, très tôt. Et encore une fois, je dis de part et d'autre. Je crois qu'on a aucune sérénité. Moi, j'ai été frappée par cette phrase du cardinal Pizzaballa de la semaine dernière, qui dit qu'il faut aller vers l'avenir et parler avec sérénité. Je crois qu'il y a des choses qui viennent abîmer ça. Et l'enjeu, c'est d'aller vers l'avant, parce qu'il faut aller vers la paix. On ne peut pas continuer à aller d'invective en invective, de vengeance en vengeance, d'accusation en accusation. Ça peut pas, enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me dire que ça peut être ça, notre rôle dans le conflit.
Je voudrais simplement, avec le climat là qu'il y a, on traite de cela à distance et dans nos mots, j'ai l'impression qu'on est plus violent que ceux qui vivent sur place. Et ça me gêne. Je voudrais simplement donner la parole au père Romanelli parce qu'il a parlé récemment, j'ai écouté.
Donc le curé de
Gaza. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. C'est pas du tout une homélie, hein. Je vous préviens. Non pas la paix du confort, mais celle de la justice et de la fraternité. C'est un échange téléphonique qu'on a eu. Quand l'occasion est là, il faut faire le bien. Le bien qui est à notre portée, que ce soit en diffusant la vérité, en la diffusant avec charité. Diffuser la vérité, la justice, promouvoir une grande charité, mais l'un des aspects de la charité, c'est diffuser le bien, la vérité. Aider à prier, offrir des sacrifices pour la fin de la guerre, pour les victimes, pour la libération des captifs, c'était avant, pour l'accompagnement et la guérison des malades et des blessés. Vous savez que le diocèse du patriarcat latin de Jérusalem et d'autres prennent des initiatives qui sont très difficiles à transformer concrètement. Dans l'instant présent, nous devons agir. D'un point de vue spirituel, faisons ce que nous avons à faire au moment présent. Non pas plus tard, mais n'est-ce pas, dans le contexte actuel, Dieu nous donne pour porter du fruit. N'attendons pas. De magnifiques conditions, c'est le curé de Gaza qui dit ça, de magnifiques conditions se réunissent pour essayer de s'améliorer, de se repentir de nos péchés, de confesser sincèrement ce qui nous sépare de l'amour de Dieu, de la situation de péché ou d'une personne. Dès maintenant, commençons à agir. Moi, c'est ces paroles-là que j'ai envie d'entendre.
Une dernière question ?
Oui, merci. Moi, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par commencer par soutenir. En fait, je ne comprends pas quelle doit être la portée d'une parole chrétienne quand on doit soutenir, puisque évidemment, on peut soutenir au 7 octobre, mais aujourd'hui, soutenir, je pense que ce serait indécent. Et puis aussi, tout à l'heure, vous disiez « Oh non, il ne faut pas faire de la politique ou du juridique », mais refuser de dire le terme génocide, c'est déjà politique et c'est déjà un choix en soi, surtout que la CIJ a reconnu un risque de génocide, donc en soi, ce ne serait pas très... Ce n'est pas une controverse d'utiliser le terme. Donc, et puis, sur une situation qui est aussi politique et dont les enjeux sont juridiques, comment avoir une parole chrétienne qui ne soit ni politique ni juridique ?
Pas simple.
Non, je crois que ça dépend de ce qu'on appelle une parole chrétienne, en fait. Moi, je franchement, là, ce qui vient d'être cité, je crois que c'est vraiment ça que je vois être notre rôle. Et entendre, encore une fois, les deux côtés. Enfin, on a deux peuples qui sont face à face, qui se battent depuis tant de temps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'Yitzhak Rabin. Ça fait 30 ans qu'on pleure Yitzhak Rabin et l'espoir de paix qu'il incarnait. Je pense pas que, enfin, je crois vraiment que l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de dépasser tout ça. La parole chrétienne, elle dénonce la souffrance venue de bombardements qui sont sans doute pas du tout assez ciblés, trop nombreux, ce qui se passe en Cisjordanie, là, pour le coup, on n'arrive vraiment pas à comprendre comment. Ça puisse arriver, mais c'est aussi dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas possible. C'est aussi dire que, nous, quand on était en Israël, on s'est retrouvés dans les abris quand même, parce que Israël se bat sur plein de fronts différents. Donc, quand on était en Israël, il y avait des bombes outils. Donc c'est aussi ça le quotidien des Israéliens. Faut l'entendre aussi, c'est-à-dire qu'on il y a des gens déplacés, il y a aussi des gens déplacés en Israël. Enfin, on a tendance à dire comment est-ce qu'on peut. On entend ce petit bruit, hein. Au nom du secours du plus faible, on n'écoute que le plus faible. C'est pas. je ne sais pas si c'est juste, en fait. Je ne sais pas si c'est notre rôle que de donner du poids aux différentes souffrances. Je crois qu'on doit plutôt écouter les différentes souffrances, se tenir à côté d'elles, les apaiser comme on peut avec les actions humanitaires que vous mentionniez et ce que fait l'œuvre d'Orient, et puis surtout aider à aller de l'avant et dépasser tout ça. Et en tout cas, je pense qu'on n'a pas à aller, vous voyez, je disais tout à l'heure de la rivière à la mer, accréditer cette phrase, par exemple, c'est appeler à la destruction d'Israël. Pourquoi appeler à la destruction d'Israël? On entend derrière, et c'est pour ça, enfin, quand on est proche des communautés juives, on l'entend beaucoup, donc on est aussi sensibilisé. Il y a quand même tout le relent d'antisémitisme qui revient très très vite. C'est quand même le seul pays dont on... C'est le seul pays dont on...
Monsieur,
met
monsieur,
en cause,
s'il vous plaît.
L'existence. Est-ce que on dit, enfin voilà, il n'y a pas un autre pays au monde dont on se dise il ne devrait pas exister. C'est quand même quelque chose. En tout cas, on doit y réfléchir.
Allez-y. Merci.
Voilà, bah, moi j'ai pas envie. Enfin voilà, on pourrait débattre longtemps. Voilà, il y a les questions effectivement, comment construire les. Comment aujourd'hui on construit la paix, comment la question de la justice, la question du droit, etc., on a tout. Moi, j'avais envie juste de vous partager une parole de Sœur Bénédicte, donc Sœur Bénédicte qui est au monastère de l'Emmanuel à Jérusalem et qui nous dit « Nous sommes une présence qui continue à espérer au pied du mur, là où plus personne ne peut garder l'espérance ». Nous écoutons la souffrance de ces deux peuples et nous continuons à aimer. Nous avons besoin de votre prière. Voilà, donc je voulais conclure par ça aussi.
Merci. Peut-être vous arrivez à... Vous pouvez voir sur Twitter, il y a des images de la Toussaint à la paroisse catholique de Gaza. On a demandé aux enfants de se déguiser dans le saint qu'ils aiment. Et donc il y a des images très très touchantes avec des petites filles qui sont déguisées en sœurs de la communauté de Mère Teresa. Enfin, c'est très, très, très touchant. Voilà. Étienne.
Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos paroles qui nous ont permis de grandir sur ce sujet. Je voulais vous informer aussi du prochain mardi d'éthique publique qui aura lieu le 2 décembre et qui aura pour thème, hein, dans le cadre de la publication de la première exhortation apostolique de Léon XIV. Donc le thème sera « Léon XIV, les pauvres et nous ?» Point d'interrogation. Le point d'interrogation étant sur nous, hein, étant pas sur le reste, que ce soit bien clair. Voilà. Merci beaucoup de votre présence nombreuse aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui nous écoutent à distance. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer à l'organisation des mardis d'éthique publique. Il y a la possibilité de faire un don à la sortie de la salle.